Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Mais bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien journaliste, auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier de Lotbinière. Il vient de temps à autre nous visiter, c'est toujours un plaisir. Dave, tu es un expert, en fait, des lieux de pouvoir au Québec. Tu as publié un livre à ce sujet avec Marco Belair-Cyrino au Boréal. Et tu veux attirer notre attention aujourd'hui sur le château Vaudreuil. C'est un lieu de pouvoir important de la Nouvelle-France et tu as écrit un article à ce sujet.
Oui, dans la revue Nouvelle-France, dont c'est le troisième numéro qui vient de sortir, une revue d'histoire, comme le nom l'indique, qui couvre la période de la Nouvelle-France. Et le château Vaudreuil, c'est un lieu de pouvoir qui est vraiment méconnu. Quand on pense à la Nouvelle-France, on va penser au château Saint-Louis de Québec,
oui.
Où Frontenac a logé notamment. On va penser au palais de
à l'endroit où est le château Frontenac aujourd'hui.
Ouais, exactement. Oui. On pense au palais de l'intendant, où on avait le numéro 2 de la colonie était logé, l'évêché. Mais on pense très peu au château Vaudreuil, qui évidemment est disparu, donc ça ne facilite pas les choses. C'est un bâtiment donc qui aurait célébré son 300e anniversaire année, qui a été reconstruit en 1723. Donc, en fait, le bâtiment, il est à l'origine, il y avait une autre maison qu'on appelait la maison Grésolune du Lutte, qui a servi de base à la construction du château. Donc, on l'a allongé, on a ajouté des ailes latérales, un escalier monumental. Donc, c'est un bâtiment qui était assez imposant pour le Montréal colonial de l'époque et qui se trouvait sous l'actuelle place Jacques-Cartier. Mm-hmm. Quand on va sur place aujourd'hui, il y a une espèce de dallage noir qui démarque le contour du bâtiment. Mm-hmm. Donc, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'indications. Là. C'est vraiment... Faut vraiment savoir où on est pour le visualiser.
Juste démoli en quelle année?
En fait, il a été démoli en 1803. Il y a eu un incendie qui a détruit le bâtiment. Mais donc, si on remonte à son origine, il n'a pas été là très longtemps, finalement. 1723 à 1803, c'est 80 ans, c'est un peu de temps. Mais une période marquante. Donc, en 1723, le bâtiment est agrandi par la famille Vaudreuil, qui lui donne son nom. Et il va servir de résidence de pied-à-terre montréalais aux gouverneurs de la Nouvelle-France qui sont basés à Québec. Et l'élément intéressant, c'est que pendant la guerre de la conquête, donc entre 1755 et 1760, comme la colonie est menacée au sud de Montréal, les gouverneurs, le gouverneur Vaudreuil, de la famille du château, va résider là tous les étés. Donc, dès que les armées sont en mouvement, lui s'installe au château Vaudreuil et c'est de là qu'il va diriger à distance les troupes de Nouvelle-France. C'est lui qui va envoyer des soldats aux frontières aux ordres de Montcalm. Et d'ailleurs, c'est entre les murs du château qu'il va y avoir les fameux débats avec ce général-là sur les débats de stratégie.
Notamment entre Montcalm et lui.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on a toujours dit que Montcalm et lui ne s'entendaient pas sur la stratégie à adopter contre l'envahisseur britannique.
Oui. En effet, surtout sur les effectifs, les théâtres d'opération à prioriser. Pas tellement sur la stratégie, parce qu'on a beaucoup dit que Montcalm était un adepte de la Grande Guerre versus Vaudreuil, qui lui aurait été un adepte de la Petite Guerre, donc la guerre d'escarmouche. En réalité, les débats portaient davantage sur quelles frontières prioriser, combien de troupes à envoyer sur ces frontières-là. Donc, c'est un endroit qui est très important pour ça. Il va y avoir aussi des conférences entre nations, donc entre le gouverneur de la Nouvelle-France et les nations autochtones qui vont se présenter au château.
Oui, tu as une description de ça qui est fascinante.
Oui, c'est ça. Donc, mon article...
Tu dis que Vaudreuil était comme plus ouvert aux Autochtones qu'à un personnage comme Bougainville, qui était pourtant très proche de Montcalm.
En fait, on a un épisode où on a le gouverneur de la Louisiane qui a envoyé un émissaire, et l'émissaire a parcouru l'ensemble de la vallée du Mississippi, les Grands Lacs, et il arrive au château Vaudreuil à Montréal, et le gouverneur le fait patienter dans l'antichambre comme s'il était arrivé de la rue d'à côté. Ça, c'est un épisode assez amusant. Et c'est aussi aussi au château Vaudreuil, de toute évidence, qu'a été signée la capitulation de la Nouvelle-France en 1760. Donc, un an après la bataille des Plaines d'Abraham, les armées britanniques encerclent Montréal. Il y a un conseil de guerre très important qui est tenu au château Vaudreuil le 6 septembre 1760, où là, on décide de capituler parce que la disproportion des forces est trop grande. Et donc, c'est là que Vaudreuil va signer la reddition de la colonie. Et c'est aussi là que le général Amherst va être reçu après la reddition, parce que donc la ville est prise, mais il y a des étapes qui suivent la reddition. Donc, on envoie d'abord les Britanniques envoient d'abord des soldats garder les portes de la ville, et ensuite, il va rentrer dans les jours qui suivent, et il va être reçu au château Vaudreuil pour un repas officiel avec l'ancien gouverneur de la colonie. Et ce qui est intéressant, c'est que Vaudreuil n'a pas réussi à convaincre aucun officier des troupes de terre, incluant Lévy, à participer à ce repas-là avec le conquérant, pour une raison bien simple, c'est qu'Amherst n'a pas voulu accorder les honneurs de la guerre aux troupes françaises, donc, qui ont capitulé. Et ça a des impacts énormes parce que ça fait en sorte que les troupes ne pourront plus combattre pour le restant du conflit. Ah. Donc, des officiers comme Lévy, Bourlamac, eux, ils espéraient revenir en France et continuer leur carrière dans les combats en Europe qui se déroulent. Mais ça ne sera pas possible pour eux. Donc c'est ça, c'est d'où le refus de participer au repas avec Amherst. Et Amherst lui refuse les honneurs de la guerre en raison des atrocités qui ont été commises pendant le conflit, notamment par les Alliés autochtones, les miliciens canadiens, et donc des débordements qu'il y a eu dans le cadre du conflit. Donc un château très intéressant. Après la conquête, il va être acquis par Michel Chartier de Lebinière, donc l'ancien ingénieur de la Nouvelle-France.
Sur lequel tu as écrit, là, oui. Ton livre, ça porte sur ce personnage haut en couleur.
Exactement. Et par la suite, le château va accueillir le Collège Saint-Raphaël, Collège de Montréal, et il va le demeurer jusqu'en 1803, jusqu'à l'incendie du bâtiment. Et par la suite, on va aménager la place Jacques-Cartier, donc un marché. Le marché neuf qui va devenir la place Jacques-Cartier et sur laquelle on a installé la colonne Nelson, donc qui célèbre la victoire de Trafalgar par l'amiral Nelson, victoire contre la flotte de Napoléon. Donc, c'est un peu. Ce monument-là va être érigé 50 ans seulement après la conquête britannique. Donc, c'est très symbolique, un monument comme ça qui souligne une victoire.
C'est comme planter un drapeau, c'est comme dire voilà, on est chez nous.
Tout à fait.
Oui. Ouais. Et à l'endroit même où était le château Vaudreuil?
Dans le domaine, en fait, parce qu'on a le château Vaudreuil qui occupe le bas de la place actuelle. Et le domaine s'étendait de la rue Saint-Paul jusqu'à la rue Notre-Dame. Donc, c'est un grand espace. Il y avait des arbres fruitiers. C'était vraiment un endroit magnifique. On a des plans de cet endroit-là.
Oui, il y a les plans dans ton article, d'ailleurs, de la revue La Nouvelle.
C'est un peu un Versailles miniature, en forçant. Là,
très, très miniature, hein, c'est ça. Oui. Ça devait être un bel édifice.
Bâtiment magnifique. On a des plans avec une grande salle, des antichambres, des cabinets.
À la française.
À la française, oui, avec des pièces en enfilade. Donc, on pourra se rendre dans une pièce, il fallait traverser toutes les autres pièces. Donc, c'est un bâtiment très particulier et qui est disparu en 1803.
Oui, c'est triste. Il y a un monument, par contre, érigé au 19e siècle, qui est toujours là et qui va être rénové ici à Québec.
Oui, on a appris ça ce matin. Donc, le Monument des Braves, qui commémore la bataille de Sainte-Foy de 1760. C'est un peu la bataille revanche, la bataille des Plaines d'Abraham. Elle est remportée par le successeur de Montcalm, le chevalier de Lévis. Et depuis 1863, on a un monument qui rappelle ce combat-là, qui est sur le chemin Sainte-Foy. Il y a un petit parc, là, le parc...
C'est 100 ans après la bataille que ça a été installé? Hein?
Pratiquement, oui.
C'est ça?
C'est ça. En fait, c'est que dans les années 1850, on a découvert des ossements dans une coulée pas très loin du... près de ce parc-là. Et on a donc décidé d'honorer les morts du combat. Donc, on a construit une colonne de fonte de 22 mètres de haut. C'est l'architecte Charles Baillarger qui l'a conçu. Et on a dédié ce monument-là aux Braves parce que, d'une part, on ne savait pas trop si les ossements étaient français, britanniques, canadiens. Et aussi, c'est l'époque où on voulait souligner l'union des deux peuples.
Est-ce que tu dirais que c'est l'époque de la Concorde?
Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est la bonne entente. On a voulu. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Papineau n'a pas voulu participer à la translation des restes en 1854. Il avait été invité, mais il n'a pas voulu associer son nom à cette célébration-là du conquérant et du conquis en un seul monument réuni.
Ben oui.
C'est un monument qui fait un peu penser à l'obélisque Wolfe-Montcalm, qui est là, qui date de 1828,
oui.
qui est à côté du château Frontenac. Donc, un monument de la bonne entente. Et donc, c'est ça. Ce monument-là va être restauré. C'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Ça, il va être démantelé.
À l'identique, j'espère?
Oui, en fait, il va être démantelé complètement et remonté.
OK.
Il y avait des traces d'usure importantes. Et c'est ça. J'ai entendu aujourd'hui qu'il serait mis au goût du jour, mais en fait, c'est vraiment le monument va être restauré
okay.
tel qu'il était. Et, mais
on
quand
va
même.
Regardez la victoire qui est oui. au-dessus. Là.
Oui, c'est un monument intéressant parce qu'il y a la colonne, mais il y a aussi au sommet la statue de Bellone
oui.
qui était offerte en 1862 par le prince Jérôme Napoléon, qui est un cousin de Napoléon III et par le fait même un neveu de Napoléon Ier.
Ben oui.
Et donc, c'est ça. Lui, il était venu à Québec visiter la ville et il avait beaucoup aimé sa visite. Et il avait offert cette statue-là, donc qui surplombe la colonne des Braves, donc à Québec. C'est dans l'axe de l'avenue des Braves où on avait autrefois ben oui. aussi la résidence de Jacques Parizeau, premier ministre du Québec.
Brièvement,
qu'on a appelé l'Élisette.
L'éphémère Élisette.
Voilà. Donc, le monument va être reconstruit dans le courant de l'année 2024.
Donc, c'est une des traces lointaines de la famille Bonaparte,
oui.
d'une certaine façon, cette statue-là. Et là, la question me brûle les lèvres. Dave, vas-tu aller voir le film de Ridley Scott
c'est
sur
ça,
Napoléon?
Je me pose la question. J'avais l'intention de le faire, mais j'avoue, j'ai écouté toutes les balados.
T'as été refroidi par les critiques?
Oui, 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 les critiques sur le fond et la forme de ce monument, de ce film-là. Donc, je crois que tu as quand même apprécié le...
Oui, comme on peut apprécier un film de Ridley Scott, évidemment, comme Gladiator, j'avais bien aimé, tout en sachant que c'était pas la vérité historique, on était très loin de là.
Oui, on pourrait oui. en reparler peut-être.
Oui, parce que j'aimerais que tu nous parles des traces, des autres traces. Là, il y a le Monument des Braves, mais il y a d'autres traces de Napoléon à Québec. Il y a des rues, il y a une rue Napoléon.
Oui.
Il y a aussi une autre trace importante dans...
Le tombeau de l'Aiglon.
Donc, exactement, je veux que tu me parles de ça. On était déjà allés le voir ensemble, puis c'est une histoire fascinante. Donc, soyez là, mesdames et messieurs, auditeurs de La Haut sur la Colline. La semaine prochaine, Dave Noël nous parle de Napoléon. C'est un sujet qui te passionne. C'est un des sujets historiques qui te passionne.
Oui, mais c'est intéressant. C'est
oui.
vraiment une vie très mouvementée. Donc,
oui,
oui comme beaucoup de gens, c'est pas très original. Je pense qu'on est plusieurs. Et d'ailleurs, le film fait des recettes malgré ses qualités artistiques
oui.
donc, et historiques. Voilà, donc ça.
Malgré ses défauts artistiques, parce qu'il y a des qualités.
Oui, 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 tout à fait.
OK. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Salut. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.